Je m'appelle Camille et j'ai fait des études de langue dans une université de l'Est de la France. Et pour ma troisième année de licence, j'ai décidé de partir en Erasmus pour pratiquer le suédois puisque c'était ma langue principale. Au départ, il était prévu que je parte pour 2 semestres dans une petite ville suédoise au sud du pays, mais dans les terres. Quand j'ai décidé d'apprendre le suédois, c'est parce que j'avais une vision vraiment idéalisée de la Suède. Je pensais que tous les défauts que je pouvais trouver à ma vie en France disparaîtraient une fois que je serais en Suède. Je pensais que là-bas, il n'y avait pas d'inégalité, pas de sexisme. Pour moi, c'était vraiment le pays idéal où tout le monde est heureux et tout le monde peut bien étudier. C'est pour ça que j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir dans cette année parce que je pensais vraiment qu'enfin je pourrais me réaliser pleinement sur tous les domaines en fait. Ma première impression, c'est que je ne m'attendais pas du tout à arriver dans l'endroit où j'étais parce que la ville est assez petite et très moderne. Bon, je suis arrivée très tôt, je suis arrivée le matin à l'aube. Il y avait encore la rosée. Toute la ville était encore endormie et j'avais une nuit de train dans les pattes, donc c'était un peu compliqué. Je me souviens d'une sensation d'espace vraiment qui à la fois était très agréable et à la fois vraiment désarmante parce que on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des rues aussi larges et un tel silence aussi. Dans l'université qui nous accueillait, l'année précédente s'occupait encore du logement pour les étudiants Erasmus, mais comme il y a un gros problème de pénurie de logement en Suède, l'université a décidé de ne plus assurer le logement aux étudiants Erasmus qui devaient désormais se débrouiller tout seuls. Avant de me rendre en Suède, j'avais cherché un logement sur un site internet suédois. Donc un homme qui devait avoir une trentaine d'années m'a dit qu'il louait une chambre de son appartement qui était très grand, qui faisait 60 mètres carrés, donc avec 2 pièces. Donc ma future chambre allait faire 20 mètres carrés, ce qui est vraiment très agréable. Mon colocataire n'était pas souvent à la maison parce qu'en fait il était chauffeur de camion et il était très peu loquace et j'ai l'impression qu'il avait en partie sous-loué sa chambre pour rompre peut-être avec une forme d'isolement. Il faisait partie d'une église évangélique et il avait tendance à, oui, essayer de m'encourager à faire comme lui. Le dimanche matin, il écoutait la messe à la radio, mais il mettait vraiment la radio très très fort, ce qui me réveillait. Bon, il avait également une très mauvaise image des personnes qui buvaient de l'alcool, ce qui m'a valu de très nombreuses remarques un peu désobligeantes lorsque, avec des amis, on ouvrait simplement une bouteille de vin pour accompagner un bon repas ou voilà, c'était pas une consommation excessive, mais même ça était un peu surtout si ça avait lieu en semaine. Très vite, je me suis rendu compte que la bibliothèque, si elle était si agréable, c'était parce que c'était essentiel pour que les gens continuent à avoir envie d'étudier, même durant l'hiver, parce qu'il y a, finalement peu d'endroits où on peut se retrouver. Enfin, il y a des cafés, mais c'est pas forcément évident. Et puis, les prix étant ce qu'ils sont en Suède, ça peut vite grimper quand on a un budget étudiant, tout va très vite. Dans la ville où j'étais, il y avait soit des cafés qui fermaient très tôt, enfin il y avait un seul bar dans le centre-ville où j'allais parce que les autres, il y avait un pub irlandais et une boîte de nuit. Le premier était interdit au moins de 22 ans et l'autre au moins de 25 ans. À l'époque, j'étais trop jeune pour pouvoir y aller. Donc, l'accès à l'alcool, en fait, est beaucoup plus réglementé en Suède qu'en France. C'est un monopole d'État pour ce qui est des boutiques. Donc, il y a dans chaque ville à peu près une boutique qui s'appelle Systembolaget, et c'est une boutique où on peut acheter des vins, des spiritueux. Mais les horaires d'ouverture de cette boutique étaient relativement restreints. Elle fermait à 14 h le samedi. Donc, ça demande, mine de rien, beaucoup d'anticipation. Et je me suis rendu compte petit à petit que ça devenait une préoccupation, en fait. Rien n'encourageait à ce que les gens se parlent ou échangent, et surtout avec les Suédois, ça a été peut-être plus difficile par moments. Là-bas, personne ne vous regarde. Les gens s'évitent du regard. Donc, au début, j'ai effrayé des personnes dans la rue ou dans le bus, simplement parce que je leur demandais l'heure ou je m'asseyais à côté d'elles dans le bus, alors qu'en fait, ça se fait pas parce que d'autres places étaient libres et des choses comme ça. Et on se sent souvent un peu observé. C'est important de suivre les règles, en fait. Par exemple, ces briques de jus de fruits, il faut absolument les plier une fois qu'elles sont vides et qu'on les met au recyclage, parce que si quelqu'un vous surprend en train de vider votre sac de recyclage avec des briques qui ne sont pas pliées, on peut se prendre vraiment une remarque très désagréable, parce que ça voudra dire qu'on prend beaucoup plus de place que les autres. Et on n'a pas vraiment le droit de dépasser ces limites. Il y avait un local à vélo à l'extérieur de mon immeuble et un local à vélo à l'intérieur. Le premier était pour les vélos qu'on utilisait tous les jours et le second pour les vélos qui restent plus longtemps. Mais comme le local à vélo de l'extérieur était tout le temps plein, je mettais mon vélo dans celui à l'intérieur. Et une voisine un jour a remarqué que je passais avec mon vélo tous les jours dans le hall de l'immeuble, et je me suis pris un sacré savon ce jour-là. Mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est qu'une véritable pression sociale, en fait. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, en fait. Je me suis vraiment construit une carapace, et j'ai décidé de faire comme tout le monde, de plus parler, à part aux personnes avec lesquelles je m'étais liée. Et j'étais plus étonnée, je regardais plus les gens dans la rue. J'ai vraiment commencé à faire comme tout le monde fait là-bas. Et ce qui m'a vraiment fait partir plus tôt, c'est, je pense, l'hiver et le fait que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas pratiquer le suédois comme je l'avais prévu, et que donc, puisqu'en plus la vie coûtait cher là-bas, plus grand-chose me retenait. J'avais pu m'arranger avec mes enseignants qui avaient été très compréhensifs, qui avaient vu que de toute façon je dépérissais là-bas, et qui donc m'avaient autorisé aussi à rentrer plus tôt. Le départ a été vraiment un moment de soulagement.